Y'a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié, y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les infirmières et les gars du chantier, y'a les ouf, les ouaves, les toqués-toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici-bas, oui, y'a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et Casville.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Je vous rappelle que cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. La Ligue des droits de l'homme de Villefranche-de-Rouergue de Casville a entamé une série d'émissions et de conférences sur le thème de la République. Après une émission de radio sur le thème l'histoire de la République, nous avions invité en novembre 2015 Jean-Louis Mattaran pour une conférence qui s'intitulait « La République et le sacré ». Alors, Jean-Louis Mattaran est historien, il est spécialiste de la Révolution française et de l'histoire des idées politiques. Il est également ancien directeur des études de recherche à la Fondation Charles de Gaulle. Pour cette émission, nous avons choisi de vous faire partager la première partie de la conférence qu'il avait tenue donc le 12 novembre 2015 à Villefranche-de-Rouergue. Et après une pause musicale, je vous laisse à sa compagnie sur le thème « La République et le sacré », vaste programme.
Thank you. au fond, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de parler d'amour et d'invisible. Donc on sort à la fois du quantifiable et du calculable, et de choses que l'on sait être intimes, mais dont on parle rarement publiquement, et pourtant il s'agit bien de ça. Donc sur la République et le sacré, on place notre réflexion, puisque nous sommes à la fois des gens éduqués, des gens qui réfléchissons à ce que nous faisons et ce pourquoi nous agissons dans la cité, dans un contexte évidemment qui est malheureux, dans notre France de 2015, même si ce n'est pas la première des périodes évidemment dans lesquelles notre pays souffre et traverse des crises importantes. Il y a cependant aujourd'hui une crise qui ne date pas d'un an ou de deux ans, c'est quelque chose qui enfle, ou en tout cas qui a mûri depuis longtemps. C'est une crise du politique, pas de la politique, même si évidemment il y a également une crise de la politique qui en est inférée, une crise du politique qui elle-même s'inscrit dans une crise plus générale, qui est à la fois sociale avec le chômage ou la précarité, économique, une crise européenne au sens institutionnel du terme, et dont on voit que l'actualité de la misère et des migrants interroge à la fois les institutions, celles de l'Europe embryonnaire et celles de la République. Et tout ceci entraîne, d'une façon générale, une sorte de désarroi existentiel qui nous traverse, qui est marqué par l'inquiétude de déliaison possible, au sens de ce qui nous lie et nous relie, qui est marqué sur des interrogations sur l'appartenance, avec parfois des termes qui sont employés, qui sont marqués par l'ignorance, parfois par la provocation, et la crainte également, des craintes d'affirmation, voire de révolte identitaire. La République, c'est évidemment, chacun le sait, un régime politique, mais pour nous Français, c'est bien plus que cela. Et c'est ça dont il faut prendre conscience, parce qu'il y a pour les Français, et pour des raisons historiques sur lesquelles on reviendra, même brièvement, la République désigne le « nous », ce que nous formons collectivement. Donc ce n'est pas la République italienne et ce n'est pas la République non plus américaine. C'est encore autre chose. Il y a donc une densité qui est beaucoup plus grande et que nous savons soit objectivement ou que nous percevons intimement par ce qu'on a été éduqué ou inculqué par l'école. Le « nous », c'est ce que nous formons collectivement. Donc c'est en quelque sorte quelque chose qui est créé, je reviendrai, et qui probablement... une hypothèse qui s'étiole sans amour et qu'il faut donc toujours nourrir. Alors peut-être les raisons de l'aimer s'affaiblissent-elles et malgré, on le sait bien, des manifestations d'amour qui se multiplient mais qui ne portent peut-être pas le sens que nous attendions. Moi je voudrais ici, je le marque comme ça, on reviendra éventuellement dans les questions, je voudrais soutenir une forme de plaidoirie républicaine. C'est-à-dire à la fois affirmer quelque chose de fort contre la mode différentialiste et également contre la tentation communautaire, qui est une tentation d'affaiblissement et de division. Donc on n'est pas dans l'objectivité absolue qui n'existe pas. Moi, je ne crois pas non plus que la République, quand on affirme une force comme ça républicaine, ce n'est pas le repli sur une communauté d'origine. Reviendra. C'est pas ça. Et d'autre part, ce n'est pas non plus, et c'est notre refus, la République ne peut pas se réduire à la seule expérience individualiste dans un monde qui est marqué par le social-libéralisme. Donc, quand on parle de sacré, la République et le sacré, ce dont je veux parler, c'est le sacré de la République. Alors, évidemment, on ne pourra pas, on évoquera d'autres sacrés qui ont préexisté, qui continuent d'exister, et comment la République fait avec. Le sacré de la République au sens de celui qu'elle institue, hein, au sens propre du terme, instituer, mettre en place, qu'elle organise et qu'elle propose à tous comme un moyen durable d'être ensemble. J'aime pas l'expression du vivre ensemble, qui a quelque chose de tout à fait immédiat et de tout à fait éphémère. Par contre, dire que la République et ce qu'elle constitue nous permet d'être ensemble, ça a évidemment un sens beaucoup plus puissant. Je prends le terme de sacré au sens étymologique du verbe latin, ça vient du verbe latin sensire, qui a le sens de délimiter, d'entourer, d'interdire. C'est ça, définir un sacré. D'où la définition après du temple que l'on inscrit. J'ai vu qu'un journaliste, je ne sais pas s'il reprenait les propos de Guy ou s'il l'avait lui-même titré ainsi, avait intitulé « Les gardiens du temple » à propos de la Ligue des droits de l'homme. Il n'y a rien de plus vrai et de plus honorable. Quel temple ? Et ce temple, évidemment, le sacrum, il se définit par rapport à un extérieur qu'on appelait le profane. Voilà. Et donc il y a évidemment tout un sens à jouer, qui était le monde des hommes, le sacré étant le monde de Dieu, le monde du divin, en tout cas le monde de ceux qui dépassent les hommes. Je reviendrai tout à l'heure. Je crois que dans cette interrogation, le secret de la République, ou le rapport entre la République et le sacré, on est dans une actualité qui est tout à fait intime. C'est-à-dire que dans une époque où on est traversé par des évidences, qui sont celles des expositions, notamment des émotions, qu'elles soient individuelles ou collectives, le sacré se raréfie. Non pas qu'il n'existe plus, mais en quelque sorte, il est tu, ou il disparaît dans la profusion de la communication. Et pourtant, je crois que c'est l'oxygène de ce que nous sommes. Nous, républicains. Je crois que il y a évidemment, je suis historien, donc il y a des moments dans notre histoire qui ont été, pendant lesquels, si vous voulez, l'invention et le renforcement de l'architecture collective, puisqu'on parle de ça, ont été plus ou moins forts. J'évoquerai tout à l'heure rapidement, à travers quelques événements, faits historiques, la Première République. Il y a eu également un moment de la Troisième République, notamment entre les années 1880-1900-1914, et les débuts de la Cinquième République, notamment la période 58-62. C'est un jeu. C'est le micro musical. On ne sait jamais lequel on a entre les mains. Donc la période 58-62, c'est une période que je connais bien et sur laquelle je peux appuyer le raisonnement. Voilà, donc moi je voudrais affirmer des convictions, parce que je ne pense pas que quand on est historien, on doit être en dehors de ce qui se passe. Et il y a une conviction qui est à la fois qui traverse l'historien que je suis et le citoyen que je suis, c'est qu'il y a une sacralité laïque. Et que de cette sacralité laïque, nous devons la porter et en être en quelque sorte les témoins, et en être fiers. Donc, questionnement, la République s'asphyxie-t-elle par manque d'oxygène, de sacré, ou bien son sacré s'estompe-t-il ? C'est donc le propos que je vais tenir. Donc je fais un premier temps sur une partie, au fond, sur laquelle je reviens, sur le fait d'exister et de tenir ensemble. Parce qu'exister ensemble, ça nous est donné. Mais tenir ensemble et tenir ensemble au sens du double sens, on se tient et on tient à des choses communes, c'est autre chose. Je crois que la première chose qui va de soi, mais au fond qui est parfois difficile à imager, c'est que nous formons un nous les Français, nous le peuple français. Et au fond, cette question de former un nous, elle n'est pas aussi évidente que cela. Alors des philosophes l'ont travaillé, des anthropologues, René Girard vient de mourir, il avait travaillé là-dessus. Moi je m'appuie sur des travaux qui ont été faits par des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille. D'une part Pierre Legendre, qui est un philosophe du droit et du christiano-romanisme. Et Régis Debray, avec qui je travaille depuis longtemps. Et puis mes propres travaux qui ont porté principalement sur l'histoire de France. Et la question que pose Debray souvent, c'est de façon, quand on interroge comme ça la forme collective qu'est une société ou un groupe, un nous, c'est comment on passe du tas au tout. Donc comment on passe à quelque chose qui a du sens, qui a du contenu. Je vous rappelle que nous, c'est pas le pluriel de je, c'est autre chose. C'est autre chose qui dépasse et qui augmente. Alors il y a, pour visualiser ou figurer tout ceci, il y a eu une analogie qui a été faite dans l'emploi d'un mot qu'on appelle, mathématicien autrichien Gödel a inventé ce qu'il appelait les théorèmes de l'incomplétude. Je suis parfaitement incompétent pour rentrer dans le détail, mais qui signalait que tout système qui se ferme doit, pour prendre conscience de ce qu'il est, prendre un point de référence qui lui est extérieur. Alors par analogie, on a introduit cette notion d'incomplétude dans le vocabulaire des sciences humaines. Comme ça a été discuté après par les mathématiciens en disant « mais quoi, les historiens, les philosophes, vous employez des mots pour faire les malins et faire croire que vous êtes des scientifiques cet emploi de l'incomplétude a été discuté. Donc, moi, je pense qu'on doit, on peut réfléchir en se disant que tout groupe humain qui s'organise obéit à un principe qui lui est extérieur. Ce principe peut être vu comme au-dessus, transcendantal, si vous voulez, comme disent les philosophes, ou central, immanent, peu importe, c'est pas, il n'y a pas de prérequis là-dessus. Et en tout cas, ce point de référence n'appartient pas au système lui-même, il lui est extérieur, mais en même temps, il lui est totalement intime. Donc c'est ça que je vais illustrer tout à l'heure, parce qu'autrement, on rentre dans des choses qui deviennent... Alors moi, je ne parle pas d'incomplétude, je parle de point d'ancrage, ou de point de sacralité. Et donc là, on rentrera dans quelque chose qui est plus concret. Au fond, ce dont il s'agit, c'est de représenter l'invisible. Vaste débat. Et le principe de l'incomplétude, du point d'ancrage, c'est que seul ce qui dépasse chaque individu peut réunir le groupe. Il faut qu'il y ait, disent les psychanalystes, au fond, un point ternaire, pour ne pas être en face à face dans un vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre, et qui pourrait être source de tension. Prenons un détour, faisons un détour par un point dans lequel nous allons regarder dans la même direction et qui fera notre lien, notre liant. Alors une fois qu'on a ceci, eh bien on peut aborder une sorte de petite géométrie des points d'ancrage. Je vais vous montrer une image que vous avez préparée. Alors évidemment, moi, on se place dans le cas français, puisque ce qui nous intéresse, c'est quand même ce que nous sommes en 2015. Mais évidemment, nous venons de loin. La France est un vieux pays, et elle n'est pas née en 1789. Donc il faut tenir compte de cette ancienneté de l'origine et de notre héritage, de notre transmission, pour bien prendre la mesure de ce qu'ont été les transformations essentielles, à la fois par la Révolution française et à la fin du XIXe siècle, dans ce point d'ancrage nouveau qui a été rajeuni en quelque sorte par l'introduction, vous allez voir, du principe de laïcité que vous connaissez bien. Donc je montre une image. Hein. Alors ces trois moments historiques, vous comprenez bien, l'un qui est antérieur à la Révolution française et auquel elle va mettre fin, donc je les ai qualifiés sous le principe du régime politique, monarchie absolue de droit divin, on pourra y revenir si vous voulez, hein. Il y a un deuxième moment qui est lié à la décision d'août 89. On n'est pas du tout en République, hein, pour rappel. La République, c'est beaucoup plus tard. C'est septembre 1792. Donc on est sous la monarchie. Elle introduit un autre régime politique, qui est la monarchie parlementaire, de fait, depuis le serment du jeu de paume. Et puis après, un troisième moment qui est la République instituée, telle qu'elle fonctionne dès 1880, et en tout cas aujourd'hui, 1880 sûrement, avec la période évidemment de parenthèse qui a été l'état fasciste de l'état français de 40 à 44. Alors, chaque cercle ici représente la société de l'époque, qui n'a rien à voir évidemment, société d'ordre abolie par la semaine du 4 au 11 août, et simplement ce que je voulais représenter, c'était que dans le système de croyance s'ancrait depuis des siècles en un point de référence qui était Dieu, qui était déjà un peu plus compliqué parce que ce Dieu avait été contesté par la réforme protestante, donc il y avait les catholiques et désormais les protestants, mais en fait c'était ça la structure. Et ce point d'ancrage, tout le monde, et c'était d'ailleurs le cas, tout le monde était censé y croire. Donc les regards, les prières, les pensées étaient censées converger. Et évidemment, quand on est là, on est dans de la réalité sociale, économique, de l'injustice, des inégalités, des ordres, tout ce que vous voulez. Et quand on est là, on est dans l'invisible. Et dans ce qui est dans cet entre-deux, on est dans le système de croyance. Pour organiser le système de croyance, il y a évidemment des faits humains. Et ce qui structure la croyance jusqu'à la Révolution, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, c'est juste quand même ce que je dis. Il y a une organisation principale, c'est une institution, c'est l'Église, et qui fonctionne avec des experts, en quelque sorte, de l'explication de justification. signification de la présence ici-bas et de l'au-delà, c'est le clergé. Bon. Il se trouve que très tôt, en tout cas dès le XIIe siècle, et ensuite ultérieurement, renforcé au XIVe, XVe, XVIe, puis après on connaît bien l'épisode de Louis XIV, le clergé, de concert avec la royauté, a justifié l'existence politique de la monarchie, suivant en le confondant en partie avec le système religieux. Ça n'empêchait pas, j'en dirai mieux tout à l'heure, qu'évidemment la monarchie puisse vouloir avoir quand même autorité dans ce qu'elle a considéré comme étant son espace politique. Donc c'est ça qu'on appelait la monarchie absolue de droit divin, puisque le monarque tel que s'est accompli formellement sous Louis XIV est justifié dans son autorité et dans sa légitimité par l'Église qui elle-même interprète la volonté de Dieu. Donc il était évidemment extrêmement difficile de contester tout cela, puisque du coup on basculait dans la contestation politique immédiatement dans l'hérésie religieuse. Bon, donc c'était un système très performant et extrêmement sophistiqué, chacun le sait. Alors il y a un basculement qui s'opère au moment de la Révolution, mais toujours sous la monarchie. Elle n'est plus absolue et de droit divin dès juin 1789, le serment du jeu de paume interrompt ceci, même si beaucoup de monarchistes espèrent pouvoir retrouver cette autorité-là, d'où déjà l'émigration. Les frères du roi émigrent dès le mois de juillet 1789. Rien ne s'est vraiment fait. Et l'Assemblée nationale constituante, qui s'est autoproclamée nationale, donc la référence c'est la nation, constituante se donnant comme objectif de d'écrire une constitution, donc d'aboutir à une monarchie parlementaire constitutionnelle, adopte dans le courant de l'été, le 26 août 1789, après une longue discussion et plusieurs textes, un texte qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on y reviendra rapidement tout à l'heure, et cette Déclaration des droits de l'homme, elle est mise sous une forme d'autorité, on dit dans le texte sous les auspices, au sens de la protection ancienne romaine, de l'être suprême. Alors, évidemment, entre Dieu et l'être suprême, on peut très bien les confondre. Du coup, ça peut arranger tout le monde, ça ne choque personne. Et en même temps, ça peut également convenir à tous ceux qui ont versé dans la philosophie des Lumières, tous ceux qui appartiennent au rite maçonnique, sans que personne ne soit choqué. Donc, on met en place quoi ? Il y a une société qui existe, qu'on est en train de transformer socialement et politiquement, on est qu'au début, ça c'est le 26 août, et du 4 au 11 août, il y a eu l'abolition des privilèges, donc les transformations ne font que commencer, on le sait, et cette déclaration, elle est mise tout à fait en haut, c'est ainsi qu'elle est présentée. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a une logique du texte. Et elle est adressée, énoncée au nom de l'être suprême, ou sous sa protection, par l'Assemblée nationale. Et vous voyez que là, déjà, il y a quelque chose qui se passe, qui est une forme concurrentielle de la justification des raisons d'être ensemble. Alors, ça n'empêche pas que ceci va continuer d'exister, mais dans un cadre qui est déjà dominé par ça. Le roi continue d'être là, et il va devenir simplement un monarque parlementaire, comme le monarque d'Angleterre, etc. Alors, passe le temps, c'est même pas le cas de la Première République, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, dès la Seconde, en 1848, et de façon très évidente, à partir de sous la Troisième République, puis la Quatrième, puis la Cinquième, etc., on transforme le point de sacralité. Exit Dieu, on parle plus de l'être suprême, mais on met en place des principes, des valeurs, c'est notre sacré, c'est ça dont on va parler, mais pour le mettre en place, il faut voir de quoi il est l'héritier et ce à quoi il se substitue. Bon. Ce que nous sommes, et pour évidemment énoncer un rapport qui est à la fois un rapport effectif, c'est-à-dire d'action, pas uniquement d'admiration ou d'adhésion, il y a évidemment des médiateurs. Là, on a le corps médiateur d'excellence, l'Assemblée nationale qui s'était... Et là, on a des médiateurs qui sont devenus beaucoup plus compliqués, qui étaient déjà avant, qui sont les institutions. Qui sont les institutions, et notamment le rôle qui est défini à chacun dans ce texte fondamental qui est la Constitution. Alors, tout ceci pourrait être nourri, pourrait être également un peu plus compliqué, mais on a là quelque chose, je pense, qui est assez juste, même si c'est rapide. La monarchie absolue de droit divin, il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose qui a été absolument, comment dire, radicalement exclusif. Elle s'est construite pendant longtemps, hein, et il y avait déjà eu une tentative dans un cadre de la monarchie absolue de droit divin, même si nous, spontanément, on pense Louis XIV. Avant Louis XIV, il y avait eu d'autres rois, et qui étaient tout à fait attachés à leur autorité entière. Or, et pour des raisons pour lesquelles on ne va pas revenir ce soir, c'est dans le contexte que j'évoquerai, mais que je ferai qu'énoncer tout à l'heure, des guerres de religion, à l'issue des guerres de religion, ce qu'on appelait le Grand Édit de Nantes, en 1598, organisait une forme de cohabitation de la religion principale, catholique évidemment, avec la religion dite minoritaire, protestante. Donc on pouvait très bien avoir un monarque absolu de droit divin, parce que c'est ainsi que Henri IV se pensait. Hein. Il ne faut pas penser que c'est juste Louis XIV le méchant. Quoi, hein. Donc bien avant. Hein. Et en même temps, avoir un système de croyance et d'adhésion dans l'au-delà qui différait radicalement. Et du coup, ça nous intéresse. Parce que ça complexifie des choses qu'on voyait trop simplement. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, 17 articles. Je rappelle l'article 10, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, j'évoquerai les articles de la loi de séparation de l'Église et de l'État, évidemment, de décembre 1905. Article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, virgule, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Dès l'adoption de ceci, mais ça avait déjà été vrai avec l'édit de Nantes, mais l'édit de Nantes ensuite a été réduit parce que Henri IV assassiné en 1610, après il y a eu la révocation de l'édit. À partir de 1789, ce que disent les députés de la Constituante, c'est que la France est plus que le catholicisme. C'est ça qu'ils disent. Elle ne nie pas le catholicisme et son rôle et son importance, mais c'est plus que cela. Puisqu'au fond, il y a une dissociation. Et la déclaration, évidemment, introduit à la fois la liberté de conscience et la reconnaissance donc, de la pluralité des croyances. Ça avait été le cas entre 1598 et un peu avant, hein, puisqu'il y a eu d'autres édits, et en tout cas la révocation de l'édit. Alors en 2015, où en sommes-nous de tout ça? Moi je suis frappé, et d'ailleurs Guy en disait un mot tout à l'heure, c'est la question lancinante des valeurs. La valeur, les valeurs, les valeurs. Alors déjà sur le mot, moi je crois qu'il faut le prendre au sens propre du terme, ce à quoi on donne du prix. Ce à quoi on donne du prix, ce qui est précieux. C'est ça les valeurs. Donc c'est ce que l'on veut vraiment conserver, protéger. Et on nous dit, il faut se réapproprier les valeurs. Se réapproprier les valeurs, c'est peut-être se réapproprier les principes. Voilà peut-être des sens identiques. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle fonde depuis 1792, mais après 1848, elle fonde le pacte républicain. Donc il y a là un texte de référence qui est bien né avant la République et qui a été instauré dans ce cadre d'une monarchie contestée, mais dont le monarque n'était pas contesté. Tout le monde était monarchiste en 1789, et encore en 90, en 91, que les choses changent radicalement. Les institutions, qu'elles soient celles de la République ou celles qui étaient antérieures, mais celles de la République qui nous intéressent en 2015, elles fondent, les institutions, notre existence politique, c'est-à-dire notre existence collective. Et au fond, ceux qui les incarnent, ce sont les élus, nos représentants, représentés, représente le peuple souverain. Et dans la constitution dont nous disposons, même si elle a été très fortement transformée depuis l'époque, depuis 58-62, le rôle particulier qui est donné au président de la République est tout à fait essentiel dans ce va-et-vient entre ce à quoi nous croyons collectivement et la forme que nous voulons donner jour après jour à notre destin économique, social, d'affaires étrangères, de je ne sais pas quoi, tel qu'il se présente. L'article 1 de la Constitution actuelle, il reprend, je ne vais pas le citer pour ne pas allonger, mais je l'ai pris, tel qu'il a été écrit en 58, puis après réécrit en 95, en reprenant les mêmes termes, parce qu'entre-temps, il n'y avait plus l'Empire français, ce qui était le cas en 1958. Donc. Dans l'article 1, il reprend les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces principes fondamentaux, ils ont valeur constitutionnelle. Et dans ces principes fondamentaux, il y a l'attachement, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 1946, qui reprenait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus les nouveaux droits économiques et sociaux, issus notamment des réflexions du Conseil national de la Résistance, et il reprenait également, ils ont été inscrits, ensuite, ultérieurement, en 2004, les droits et les devoirs définis par la charte environnementale. Donc ça définit l'article 1 de notre loi fondamentale. Et on voit comment il y a cet ajout de choses qui viennent de 1789, puis de 1946, puis de nos préoccupations environnementales tout à fait contemporaines. Moi, je crois qu'il est très intéressant toujours de regarder les préambules des constitutions. Le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lorsque les constituants l'ont conçu, l'ont discuté, ils l'ont pensé comme devant être un texte qui se présentait sous les formes des tables d'une loi, de la loi moderne, de ce que devait être une société moderne, qu'ils ne pensaient pas en République encore, et qui devait être mis en préambule de la Constitution. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lorsqu'elle est adoptée en août 1989, elle n'est que le premier élément fondamental, si vous voulez, ou ultime, peu importe, hein, ça peut s'inverser, de ce que doit être la Constitution qu'ils vont rédiger. Et ils vont la rédiger en 89-90, elle sera finie en 91, et on aura là une monarchie parlementaire constitutionnelle qui va durer qu'un an, puisque tout va exploser avec la guerre, la trahison de Louis XVI, etc. etc. Mais donc, la Déclaration des droits de l'homme, c'est un préambule pour la Constitution de 91. Et donc, quand on dit préambule au sens propre du terme, c'est avant d'avancer dans le sens préambulaire, avant que j'avance, avant que je marche ambulant. Donc il y a là toujours à réfléchir, et notre préambule actuel, il est très riche, il est très puissant. Encore faut-il évidemment l'évoquer et le connaître. Tout ceci, tout ce que je viens de dire là, vise évidemment à rassembler, à relier les Français, que ce soit en 89 ou que ce soit à la fin de la Troisième République ou aujourd'hui. Il s'agit de faire corps, également de faire cœur, c'est-à-dire au sens d'être dans quelque chose de choral. On chante la même chose, ou en tout cas on évoque la même chose. Chanter, marcher ensemble, on sait que ce sont les démonstrations que nous faisons quand nous manifestons, quand nous voulons affirmer quelque chose. On fait groupe, on fait corps. Bon. Eh bien, ça a été pensé comme ceci dès le début. C'est Rousseau qui avait redéfini le sens même de république, qui est un sens tout à fait, je vais dire, neutre. C'est le sens d'État. Au XVIIIe, XVIIe et XVIIIe, la République de Venise, elle n'avait rien de républicain à nos yeux. La République, c'est l'État. Mais Rousseau, la res publica. Et Rousseau, il lui donne un sens parce qu'il redéfinit les valeurs essentielles de la République, dit-il. Et ces deux valeurs essentielles, il dit la vertu, les individus qui vont agir, donc on renvoie à la responsabilité individuelle, et puis l'égalité. Il n'y a pas de République sans égalité. Égalité devant la loi et égalité de considération et de respect. Alors, tout ceci, la République, la première, qui va être proclamée le 25 septembre 1792 par la Convention, elle le reprend à son compte. Et elle déclare que, le jour même où elle est proclamée, qu'elle est une et indivisible. Donc la République, c'est un tout qu'on ne peut pas fragmenter. On ne peut pas la fragmenter parce qu'elle repose sur des points de sacralité essentiels et qui ne sont pas en quelque sorte discutables au moment où on les établit. Après, on peut les modifier. Le problème n'est pas là. Voilà. Donc, il s'agit dans ces points de sacralité, au fond, de concevoir une existence collective qui dure à travers une fiction. Est-ce que nous acceptons cette fiction ? La fiction de l'existence de Dieu, quelles que soient nos opinions individuelles, l'objet n'est pas là, elle a dominé l'histoire de France, et notamment de la monarchie, jusqu'à la Révolution française. Puis les hommes ont conçu une autre fiction, qui était de dire, on va établir des droits pour la totalité des hommes sur Terre, pas uniquement à destination des 28 millions de Français de 1789. Et c'est une autre fiction auquel on a voulu adhérer. C'était la fiction des droits de l'homme. Et puis, il y a aujourd'hui une autre fiction qui est issue des deux précédentes, qui a été renforcée, notamment à la fin de la Troisième République. Et tout ceci n'est pas un affaiblissement. C'est au contraire pensé pour nous augmenter. On est bien plus fort à plusieurs, mais on est encore plus fort, le nous est beaucoup plus fort que l'addition des jeux. Parce que ces fictions nous augmentent. Elles nous donnent du sens hérité et du sens de projet. Et c'est en quelque sorte ça qui donne du corps aujourd'hui. C'est en ce sens-là que je voudrais parler de la sacralité laïque et de la verticalité qu'elle a mise en place.
Vous venez de nous rejoindre, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Vous écoutez Jean-Louis Mataran, historien, sur le thème de la République et le sacré. Après une respiration musicale, vous entendrez la seconde partie de son intervention sur le thème « La querelle du sacré » ou « La controverse du sacré ».
Hail to the Lord's anointed, great David, great son. Hail in his times appointed, your reign on earth is now. You came to break the oppression, to set the captive free. Drive away transgressors and to rule equality. Equal rights and justice stands for I and I all. And all those that love Satan, kingdom must fall. Let hands and heart be pure and cling to rally round the red, the gold and the green. Come on, all you children of the nation. The day of glory is now at hand. We see the bloody flag, sweet sing a song. Pick up your arm and come, sing a song, etc. You want and come. I know Mr. Man, every man hear me sing the high. If he's seeking and he's seeking for a eye, I see his eye. Nothing want to I see his eye. Feel that far eye, man, and I see his eye. And in that day the righteous shall gather together singing joy of redemption, joy of song of love. And in that day the righteous shall come together, and all the wicked shall crumble in the presence of the Most High. Sing a song, cup your arms and come. Sing a song, etc. Hit your arms and come. If love is the key of life, then let's live on. Make love out of the east, man, we make it on the north. Over out of the west, man, we make it on the south. Sing a song. What he hides is my singer's song. From the day that I was born, they were singing out love, singer's song. They see the bloody flag rise. They take away we children, they take away your sons. Lying in your arms, see they take away your woman, a zone. Take up your arms and come. Cause if we want a solution, then we need a revolution. Want a solution, man, we need a revolution. A revolution of the minds. Revolution of the minds. Yeah. Why can't we come together? Why can't we stay together, man? Want a solution, man? We need a revolution. Want a solution? Say we need a revolution. A revolution of the mind. All this senseless, idiotic, senseless killing must be done. We not ever live, we want me say we want to live and love. Why can't we live this year and see the youth them live up until them live and pray? Look like the youth them nowadays now pray. Sing fire for the wicked, fire for the righteous. Them send fire for the fire and fire for fire and fire pan fire and who start the fire? Cause if you want a solution, people, you need a revolution. If you want a solution, then we need a revolution. Revolution of the mind. All the fighty, 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 fighty things.
Deuxièmement, je voulais aborder, j'avais intitulé dans mon papier, la querelle du sacré. Du sacré. Alors, je pense que le terme querelle, il n'est peut-être pas très bien choisi. Je l'ai employé au sens de la controverse du sacré. Au fond, ce qui fait débat, et ce qu'on a commencé évidemment à débattre. Qu'est-ce qui est sacré ? Voilà. Et donc il y a quelque chose qui se discute, et qui se discutera toujours, et heureusement, parce qu'autrement on reviendrait au système antérieur du droit divin. Alors, la première affirmation pour comprendre cette cet enjeu, hein, qui est un enjeu individuel, mais un enjeu de corps, hein, de société, on peut dire que le sacré, c'est du carburant. Si on n'a pas de sacré, ça ne fonctionne pas. C'est la mécanique des groupes. Et donc, c'est du chaud. Quand c'est chaud, ça brûle. Ou ça se met à emporter tout. Alors, il y a une rivalité des sacrés. Je fais que l'évoquer, on reviendra tout à l'heure à 2015. Au XVIe siècle, les guerres de religion ont été une rivalité absolument formidable de sacrés avec massacres, des choses épouvantables, épouvantables. Ça a duré quand même de, grosso modo, 1560 à 1598. 40 ans de division interne. Il y avait eu auparavant des querelles de sacrés de légitimité politique. C'est ça la guerre de 100 ans, qui a duré 110 ans, qui en a fait aussi du malheur. Et avant, évidemment, il y avait l'affirmation du sacré au XIIe siècle que l'Église imposait absolument et qui a contribué évidemment à l'organisation des croisades, et notamment la croisade interne au royaume qui était contre l'hérésie cathare, l'hérésie. Donc tout ceci, ça a donné évidemment quelque chose de... Aujourd'hui, il y a une sacralité du « nous », hein, qui est organisée, une sacralité de la République, de la patrie, du peuple souverain, dans tout ça je mets des majuscules, et dont nous avons directement hérité, et qui est liée à la période Révolution française, République, après 1792, et qui a été ravivée volontairement pour instaurer durablement la République avec la Troisième République. Alors je vais prendre deux exemples pour montrer que dans le sacré républicain, révolutionnaire, la notion de sacrifice est absolument présente, inhérente. Je vais prendre deux chants. Je ne vais pas vraiment chanter quand même. La Marseillaise, alors c'est notre hymne national, ça a d'abord été un chant de guerre, chacun le sait, un hymne national récent. Parce que l'adoption de la Marseillaise comme hymne, c'est 1879. Bon, ça fait un bail, mais enfin, pour un historien, c'est tout près. Rouget de Lisle, composé en avril 1792, on est en pleine monarchie. Eh oui, monarchie parlementaire constitutionnelle. L'Assemblée législative vient de déclarer la guerre à l'Autriche, avec la décision de Louis XVI, qui espérait autre chose, évidemment. Bon, très bien, on va pas... Donc c'est le chant de guerre pour l'armée du Rhin, chanté ultérieurement par les Marseillais, enfin je ne raconte pas, tout le monde le sait ça. Chacun connaît au moins le refrain, évidemment. Quatrième strophe. Allez, plus vite. Tremblez tyrans et vous perfides, l'opprobre de tous les partis, tremblez, vos propos, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix, tout est soldat pour vous combattre. Tout est soldat. S'ils tombent, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau, contre vous, tous prêts à se battre. C'est le nous, là, qui est mobilisé. Hein. C'est le moment de la... Sixième et dernière strophe. C'est l'une des plus belles. C'est l'une de celles qui a été le plus chantée par les résistants à partir de 1943. Et... Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voit-on triompher notre gloire. Pourquoi on se bat là? C'est pas la République. On se bat pour la liberté. Le sacré républicain et révolutionnaire est devenu la liberté. Et c'est l'objet du sacrifice. Encore plus fort, le chant du départ. Le chant du départ, vous savez, c'est ce chant qui a concurrencé la Marseillaise jusqu'en 1879, avec une hésitation permanente. Et qui a été chanté de façon aussi régulière, avant que la Marseillaise soit instituée comme l'hymne. Et on a bien vu un de nos derniers présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, qui réintroduisait par autorité présidentielle, non pas le chant du départ à la place de la Marseillaise, ça, il n'y en avait pas le droit, mais il faisait chanter le chant du départ lorsqu'il y avait des cérémonies qui étaient dans un cadre de l'Élysée ou même à l'Arc de Triomphe, mais qui n'avaient pas le décorum du président de la République. Donc, il était quelque chose. Donc ça a duré longtemps. Alors, le chant du départ, par parole de Marie-Joseph Chénier, c'est un grand poète de la Révolution. La musique, un grand compositeur de l'époque, c'est Méhul. C'est des gens qui sont connus à l'époque. Hein, on n'est pas dans la communication d'aujourd'hui. Et c'est une forme de composition musicale, parce que ce correspond, c'est pour ça que ça m'a intéressé, en dehors du texte, vous allez voir, correspond un récitatif chanté par des individus. Et une fois que l'individu a chanté, lui répond un chœur. Et ce chœur varie. Il y a par exemple le chœur des mères de famille. Puis il y a le chœur des guerriers. Puis il y a le chœur des vieillards. Puis il y a le chœur des enfants. Puis il y a le chœur des épouses. Puis il y a le chœur des jeunes filles. Et puis après, il y a le chœur général. Et donc il y a plein de voix de femmes différentes et d'hommes, etc. Chanter un peu, mais après je m'arrêtais parce que. Et donc, bon, ça a été composé, ce texte, pour le 14 juillet 1794. Bon, on ne parlait pas comme ça, on était là, en Thermidor, avant la chute de Robespierre. On est dans le cadre d'une redéfinition, et peut-être de ce qu'on pourrait appeler la première religion civile, autour de l'être suprême, hein, par Robespierre. Et alors, donc on compose ça, et on le chante, là, le 14 juillet. Vous en connaissez au moins le refrain. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, au sens de tout est possible, hein, la barrière c'est tout est possible. Hein. La liberté guide nos pas, et du nord, je chante mal et faux, je me dépêche, hein, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil. On est vraiment à la tonalité de la Marseillaise. Hein. Le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. C'est chouette. Bon, le peuple souverain, c'est en son nom qu'on se bat. La liberté, le peuple souverain, on ne se bat pas au nom de Dieu. Et le refrain, la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Quelle est l'actualité du chant du départ en 2015? Mais ça a été d'actualité en 41, 42, 43, 44. On vient de panthéoniser Brossolette, etc. Ça avait du sens. Bon. Alors, dans cette interrogation du sacré, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas du tout juste la provocation de la communication. Parce que la République tend à protéger et préserver ce qui lui paraît essentiel. Ce qu'elle a mis au cœur, c'est la liberté de conscience. Et donc, qui s'identifie à la liberté. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres droits associés à la liberté. La loi condamne les profanations. On ne va pas revenir, les lieux de culte, les cimetières, etc. Elle condamne les provocations, comme trouble à l'ordre public, mais pas uniquement. Il y a également tout ce qui blesse et fait injure. Que la loi réprime, parce qu'il y a quelque chose là qui ne peut pas faire fonctionner autrement le collectif, le nous. Alors pour autant, la République ne reconnaît pas l'apostasie, le fait de changer de religion, on s'en fout. Franchement, on s'en fiche. Elle ne reconnaît pas le blasphème non plus, parce qu'on s'en tape aussi. Ben oui, il faut le dire. On a entendu, y compris des gens élus, qui se posaient comme républicains, moi je n'ai pas donné de brevet de républicain, mais qui demandaient à ce que, d'une certaine façon, la notion de blasphème soit respectée par la République. Mais ça ne va pas. Alors, par contre, est-ce qu'on peut dire, y a-t-il un sacrilège dans la République? Non, non, mais il peut y avoir offense ou outrage. Et ça, c'est codifié par la loi. Alors, l'outrage au symbole, les symboles, c'est symbolein, hein, en grec, c'est ce qui réunit. Qui fait sens. C'est super intéressant l'origine du symbole. Et il y avait ce qu'on appelait l'offense au chef de l'État. Offense, vous voyez, comme médiateur institué de notre sacralité et de notre vie publique. C'est en fait un héritage du lèse-majesté qui a disparu en 1832. Et l'offense au chef de l'État, au président de la République, hein, a fonctionné de 1881, c'est les républicains de 81 qui l'ont remis en vigueur, sous la forme laïcisée, jusqu'en 2013, il y a 2 ans. Et donc ça a été supprimé en 2013. Donc on a considéré, dans la chose que nous connaissons aujourd'hui, que je ne vais pas qualifier, que le président de la République pouvait déposer plainte pour injure ou diffamation en tant que personne, même s'il occupait une fonction particulière, mais que cette notion de fonction particulière ne lui donnait pas, en quelque sorte, un privilège juridique particulier dans la notion. Il y a, par contre, en 2003, a été mis en vigueur, par décret, l'outrage à l'hymne national. Je ne reviens pas sur les contextes, la Marseillaise sifflée, les matchs, etc. Chirac était président de la République, etc. Et le décret le justifie ainsi, il faut protéger le bien commun de la nation. Par bien commun, on entend un point de sacralité, dans sa représentation en tout cas. Alors en sont exclus, évidemment, les œuvres de l'esprit et les propos privés. Donc vous pouvez dire que la Marseillaise, c'est nul. Hein, vous écrivez ce que vous voulez, y compris sur les blocs, mais on ne peut pas le tenir en termes de dans une fonction collective. Ici, je ne sais pas quel serait exactement le statut du propos. Il est semi-public, semi-privé, je pense qu'il serait plutôt public. Et puis enfin, en 2010, il y a eu l'outrage au drapeau. On était avec M. Sarkozy. L'outrage au drapeau, dans les circonstances également que nous savons, et la Ligue des droits de l'homme a déposé un recours au Conseil d'État, qui devait juger de la légitimité, en disant que le décret qui avait été pris à l'initiative du président de la République l'était en violation de la Constitution, et notamment des préambules. Donc le préambule, ça sert toujours à ça. Et des principes essentiels de la liberté d'expression. Alors le Conseil d'État a débouté la Ligue des droits de l'homme, par un attendu qui était qu'il y avait quelque chose qui relevait de l'autorité du chef d'État et qu'il pouvait définir dès qu'il l'avait entendu. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est en débat. En tout cas, on imagine bien ce que pourrait être une émotion collective, je ne sais pas de quelle ampleur, j'en sais rien, si on allait taguer le Panthéon à Paris le lendemain de la panthéonisation. Je ne sais pas ce qu'on pense à la panthéonisation, mais là, on avait bien une cérémonie de type républicain qui constatait que nous pouvions avoir en 2015 une forme d'héroïsme républicain dans lequel nous pouvions nous reconnaître. Des femmes, évidemment, des hommes, etc. Bon. Alors, tout ceci montre qu'il y a bien des symboles qui font sens, ou qui devraient faire sens. Ils sont relativement récents. Quand on prend les quatre principaux, je parle des symboles, hein, je ne parle pas du contenu notionnel. Le drapeau, emblème national, la première fois qu'il est inscrit, il est reconnu en 1848, hein, c'est Lamartine qui fait adopter le drapeau tricolore contre le drapeau rouge. Mais il n'est pas officialisé, il ne le devient qu'en 1946. En termes de constitutionnalisation, il est reconnu comme le drapeau sous la Troisième République, mais il n'est pas constitutionnalisé sous la Troisième République. 1946 et évidemment 1958. L'hymne national, je vous ai dit, 1879. L'hymne national n'est inscrit dans la Constitution, la loi fondamentale, qu'en 1958, pas en 1946. C'est étonnant. On a l'impression de vivre avec des choses hyper vieilles et tout à fait établies. C'est pas du tout le cas. La devise, liberté, égalité, fraternité, proclamation sous la Révolution, évidemment, mais reprise par l'article 1er en 1848, Deuxième République, elle n'est inscrite, la devise, dans la Constitution qu'en 1958. Alors, soit on pouvait dire, ça allait de soi, bon, c'est pas besoin de l'inscrire, et donc si on l'inscrit, c'est que peut-être ça n'est plus de soi, on peut discuter ça, c'est sûrement intéressant comme voie de controverse, justement. Ou, simplement, on avait oublié. Et puis la fête nationale, alors elle a été instituée le 6 juillet 1880, et dans un premier temps, vous savez, tout le monde sait qu'elle ne commémorait pas le 14 juillet 1989, mais le 14 juillet 1790, qui était la fête de la fédération, c'est-à-dire de la réconciliation de l'ancien avec le neuf qui vient d'apparaître. Qu'après on lui ait donné le nom, le contenu de juillet 89 également, ce n'est que justice, on est bien d'accord. Mais on voyait, la fête de la fédération, c'est quand le roi, le clergé, tous les ordres constitués et les députés ont dit on est tous bien, on est tous contents d'être ensemble avec la déclaration des droits de l'homme et la monarchie parlementaire et qu'elle sera bientôt constitutionnelle et que tout le monde a prêté serment et qu'il y avait des délégués qui venaient de tous les départements qui avaient été institués en décembre 1789 et donc on avait l'impression que c'était le bonheur, quoi, que la révolution était finie. Et après, évidemment, les choses ont changé.
C'était Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Cette émission est diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Vous pouvez également la réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous le mois prochain pour la suite de la conférence de Jean-Louis Mataran sur le thème « La République avant tout ». Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés, la solidarité. Refusons l'exclusion et le racisme.
Il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Il y a des rodéos,
il y a des rodéos.
Et la France d'en bas, et la France d'en haut, celle dit des bourgeois, celle dit des prolos. Il y a les petites fils à papa, et les cadres sociaux. Il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans-pitié. Il y a les femmes seules et les prisonniers. Il y a les infirmières et les gars du chantier. Il y a les oufs, les ouaves, les toqués, toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler de tout ça. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Y'a des rodéos, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, comme un voilier, y'a la chance, la loose et la win. Qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier. Y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qu'on y en a fait en prison. Plein d'escrocs cravatés qui nous prennent pour des cons. Je me suis perdu dans la foule. Son ma chenou, ma gamme, ma plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà. Où me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler tout ça.